en coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Madame, Monsieur, bonjour. À l'occasion du 90e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918, le musée de l'armée a organisé en partenariat avec l'Université permanente de la ville de Paris un cycle de conférences autour de quatre armistices, intitulé « Entre guerre et paix, les armistices ». La première conférence, prononcée le 22 septembre par Thierry Lenz, avait pour objet un armistice signé en 1813, peu connu, l'armistice de Pleiswitz. La deuxième conférence, de Jean-Jacques Becker, le 24 septembre, portait sur l'armistice de 1918. La troisième conférence, le 25 septembre, du colonel Bieuville, revenait sur l'armistice du 26 janvier 1871. Quant à la quatrième conférence, prononcée le 29 septembre par Vincent Giraudier, elle s'intéressait à l'armistice, ou plus exactement aux armistices, de juin 1940. Canal Académie vous propose d'écouter la retransmission de ces quatre conférences. Vous trouverez dans la médiathèque de Canal Académie chacune de ces interventions. Après avoir entendu Thierry Lenz sur l'armistice de Pleiswitz, écoutons le professeur Jean-Jacques Becker présenter le plus glorieux mais aussi le plus connu de ces quatre armistices, celui du 11 novembre 1918. Précisons que Jean-Jacques Becker est spécialiste européen de l'histoire de la Grande Guerre, auteur de nombreux ouvrages sur cette période. Nous retenons les deux derniers, La Grande Guerre, une histoire franco-allemande aux éditions Talendier et le Dictionnaire de la Grande Guerre auquel Canal Académie a consacré une émission au fil des pages. Retrouvons Jean-Jacques Becker dans l'auditorium du Musée de l'Armée aux Invalides.
Il y a maintenant bientôt 90 ans, le lundi 11 novembre 1918, le président du Conseil, Georges Clemenceau, un homme de 77 ans, qui avait connu la guerre de 70, montait à la tribune de la Chambre des députés un peu avant 16 heures. Et après avoir prononcé un premier discours à la Chambre des députés, eh bien, il devait quelques minutes plus tard, aller prononcer au fond le même discours. Pas tout à fait, parce que un orateur qui parlait sans notes, au Sénat. Et dans ce discours, il annonçait la signature de l'armistice qui avait eu lieu un peu après 5 heures du matin pour prendre effet à 11 heures. Il y a une photo célèbre où on voit les négociateurs français quitter la clairière de Rotonde où avait eu lieu la signature. Et pendant longtemps, je me suis demandé, puisque je connaissais l'heure où cette signature avait eu lieu, comment avait-on pu prendre, au mois de novembre, une photographie à 5 heures du matin. À vrai dire, eh bien, si la signature a eu lieu à 5 heures, les négociateurs ne sont partis que sensiblement plus tard, un moment où le jour est élevé, et donc on a pu les photographier. Effectivement, l'armistice avait été signé dans le wagon de commandement du maréchal Foch. Il était maréchal depuis le 7 août 1918, c'est-à-dire il y avait peu de temps. Mais il était surtout le général en chef des armées alliées en France. Et cela depuis le 14 avril. Eh bien, ce wagon était stationné dans une clairière de la forêt de Compiègne, la clairière de Rotonde. Quand il avait été appelé à prendre la direction du gouvernement, en novembre 1917, le 20 novembre 1917, Clemenceau avait conclu son discours d'investiture. N'oublions pas que Clemenceau est un des plus grands orateurs de son temps, avait conclu son discours d'investiture de la façon suivante. Un jour, de Paris au plus humble village, des rafales d'acclamations accueilleront nos étendards vainqueurs, tordus dans le sang, dans les larmes, déchirés des obus. Magnifique apparition de nos grands morts. Ce jour, le plus beau de notre race après tant d'autres, il est en notre pouvoir de le faire pour les résolutions sans retour. Nous vous demandons, messieurs, le sceau de votre volonté. Dans ce texte très célèbre, vous pouvez être surpris par l'emploi du mot « race ». Il n'est pas du tout le même sens qu'à notre époque. Par « race », il fallait simplement entendre notre peuple, notre population. C'était presque jour pour jour, un an plus tard, que Georges Clemenceau pouvait annoncer la victoire de la France et après avoir énoncé les conditions de l'armistice, il concluait, et puis, honneur à nos grands morts qui nous ont fait cette victoire. Grâce à eux, la France, hier soldat de Dieu, aujourd'hui soldat de l'humanité, sera toujours soldat de l'idéal. Quand en novembre 1917, Clemenceau avait annoncé la future victoire de la France, il y croyait, certes, mais quand? Et surtout, y croire en novembre 1917, c'était faire preuve d'une confiance que la situation allait mettre à rude épreuve. C'est le moment où a lieu la révolution dite d'octobre en Russie, compte tenu de la différence de calendrier, et qui allait évidemment entraîner le départ de la guerre de la Russie. C'est le moment où les Italiens connaissent la terrible défaite de Caporetto. C'est le moment où l'armée qui se trouve en Orient, l'armée de Salonique, semble bien incapable d'agir. Alors, pour croire à la victoire en novembre 1917, il fallait une très grande confiance. Quelques semaines plus tard, l'armée allemande attaquait. Ce fut une série d'offensives au printemps 1918. Et le 23 mars, la première offensive allemande a commencé deux jours plus tôt, contre essentiellement les Britanniques en Picardie. Le 23 mars, Clemenceau, qui s'était rendu au quartier général du chef de l'armée française, qui était le général Pétain. Le 23 mars, donc, Clemenceau s'était rendu à ce quartier général qui se trouvait à Compiègne à ce moment-là, et le moral était très bas. Lors de son retour en automobile, il était assis au fond de l'automobile à côté de son chef de cabinet militaire, le général Mordac, et il lui dit, 23 mars, après une entrevue pareille, il faut vraiment avoir l'âme chevillée au corps pour avoir encore confiance. C'est-à-dire que Clemenceau lui-même doutait, ou plutôt il ne doutait pas, mais les circonstances étaient telles que l'on pouvait craindre le pire. Pourtant, depuis le mois d'avril de l'année précédente, depuis le mois d'avril 1917, les États-Unis étaient dans la guerre. Ils n'étaient pas les alliés de la France et du Royaume-Uni. Ils étaient, du moins, leurs associés. Le président des États-Unis, qui se méfiait des dirigeants européens, avait, après avoir été littéralement contraint par la guerre sous-marine d'engager son pays dans la guerre, eh bien, le président Wilson estimait que les États-Unis devaient rester un peu à l'écart. Ils n'étaient pas les alliés, c'était seulement les associés. Il n'empêche, l'aide financière et économique des États-Unis avait été extrêmement rapide. De même, d'ailleurs, elle existait avant même que les États-Unis soient en fait dans la guerre. De même, le concours américain avait permis le relatif échec de la guerre sous-marine. Relatif, car ça n'empêchait pas les centaines de milliers de tonnes de navires d'être coulés. Mais les Américains avaient d'abord mis leur flotte à la disposition des Alliés, bien entendu. Ils avaient mis à la disposition des Alliés tous les navires allemands qui s'étaient réfugiés dans les ports américains en août 1914. Ils avaient également pu faire pression sur un certain nombre d'autres pays pour qu'ils mettent leur flotte commerciale, pour qu'elles aident les Alliés. Mais surtout, ils ont donné un grand conseil aux Britanniques. Comment lutter contre la guerre sous-marine ? Eh bien, jusqu'alors, les bateaux prenaient la mer. Ils étaient une proie extraordinaire pour les sous-marins. Et ce sont les États-Unis qui ont, des Américains qui ont conseillé aux Britanniques d'organiser des convois protégés par la flotte de guerre. Est-ce que ce sont les Américains ? On en discute parce que un certain nombre de jeunes officiers de marine britanniques ont fait la même proposition. Les amiraux ne voulaient pas entendre parler de cela. Des navires de guerre n'étaient pas faits pour jouer les gardiens de navires de commerce. Ils étaient faits pour livrer bataille. Bien sûr, ils ne livraient jamais bataille, puisque, sauf une fois, la flotte allemande n'est pas sortie de ses ports. Mais il a fallu convaincre. Et c'est probablement la principale idée de Lord George, le Premier ministre britannique, qui a imposé à la flotte de guerre d'escorter les convois. Mais est-ce que c'est une idée anglaise ? Est-ce que c'est une idée américaine ? Comme souvent les bonnes idées, eh bien, il y a plusieurs auteurs au même moment. Quoi qu'il en soit, grâce aux convois, eh bien, la guerre sous-marine a perdu de son influence. Il n'empêche, et les soldats américains ? Bien, les soldats américains ne sont apparus sur le champ de bataille qu'en avril 1918. Pourquoi ? Bien, tout simplement parce que les États-Unis n'avaient pas d'armée. Et le temps de recruter une armée, de mobiliser une armée, de la transporter en France. En outre, le gouvernement américain ne voulait pas, ce qu'aurait souhaité le commandement français, c'est qu'au fur et à mesure qu'ils arrivent, les soldats américains soient mis dans des unités françaises pour les compléter. On avait des problèmes d'effectifs extrêmement sérieux. Pour le gouvernement américain et pour le commandement américain, il n'était pas question. L'armée américaine devait se battre de façon autonome. Elle devait avoir son secteur de front et elle ne devait pas être, dispersée dans des unités françaises ou britanniques. Résultat, tout ça a demandé du temps. Il a fallu qu'il y ait une armée américaine en France. Et ce n'est qu'à partir d'avril 1918 que des soldats américains commencent véritablement à combattre. Or, quand ils arrivent sur le champ de bataille, la situation militaire des Alliés était extrêmement critique. Au mois de mars, l'armée allemande, comme je le disais tout à l'heure, était entrée, avait attaqué en Picardie, l'armée britannique, une armée britannique, avait, battu en retraite un peu rapidement. Ensuite, il y allait avoir une série d'attaques allemandes et la situation est extrêmement redoutable. Pourquoi en est-il ainsi ? Eh bien, au printemps 1918, les Allemands essaient justement d'arracher la décision et, en fait, ils ont été très près d'y parvenir. Aussi, quand le 4 octobre 1918, le gouvernement allemand faisait parvenir via la Suisse une demande d'armistice au président des États-Unis, ce fut une énorme surprise. On ne s'y attendait pas. Que s'était-il passé ? Les offensives victorieuses que l'armée allemande avait menées au printemps 1918, ces offensives victorieuses avaient coûté très cher à l'armée allemande. Elles avaient coûté d'autant plus cher que ces offensives avaient été menées par les meilleurs soldats, rassemblés dans des unités particulières, et ces unités ne faisaient plus que, nous en reparlerons, ce qui était la règle, c'est-à-dire l'avancée rectiligne en quelque sorte. Ces unités s'infiltraient, et ce sont ces unités qui avaient provoqué l'écroulement d'une des armées britanniques, mais pas seulement d'une armée britannique. Les Portugais, les pauvres Portugais que l'on avait installés, deux malheureuses divisions portugaises qu'on avait installées en Flandre, ont été littéralement pulvérisés par l'attaque allemande quelques semaines plus tard. Il faut dire qu'elles n'avaient guère le moral, le climat ne leur convenait pas, elles n'avaient jamais combattu ou pratiquement jamais combattu. Mais malheureusement, si je puis dire, pour les Portugais, n'ont pas été les seuls. Quelques semaines plus tard, l'armée allemande attaquait sur le chemin des Dames, et là, c'était en fait l'écroulement d'une partie des unités françaises, ce que les Italiens gentiment appellent le caporetto français, quand les Allemands franchissent de nouveau la Marne et s'approchent de Paris. Alors comment se fait-il qu'après ces offensives qui semblaient mener les Allemands à la porte de la victoire, eh bien les choses allaient changer ? Bien tout simplement parce que les troupes qui avaient mené ces offensives avaient subi des pertes considérables et c'était les meilleures troupes allemandes. Et l'Allemagne commence à manquer, elle aussi, d'effectifs. Mais vous me direz, pourtant, il y a toute l'armée qui se trouvait sur le front russe qui a pu maintenant être ramenée sur le front occidental. Eh bien, toute l'armée, non. Une partie seulement de cette armée. Et pourquoi ? Eh bien, parce que les généraux allemands, en particulier donc le commandement allemand, Hindenburg, Ludendorff, avaient souhaité que l'on fasse, au détriment de la Russie, d'énormes annexions. Annexions directes ou indirectes, mais ça revenait à peu près au même. Or, pour tenir ces annexions, il fallait beaucoup de soldats. Et environ 1 million de soldats allemands sont restés, même après que la paix de Brest-Litovsk au mois de mars ait été conclue, sont restés à l'Est pour protéger les annexions, les conquêtes allemandes. Alors, soyons clairs, soyons simples. Si ce million de soldats allemands avait été transféré sur le front occidental, l'Allemagne gagnait la guerre, sans aucun doute. Simplement, le goût du gain de ces généraux lui ont finalement provoqué sa défaite. Les Allemands ont perdu leurs meilleurs soldats et en contrepartie arrivent maintenant sur le champ de bataille les soldats américains. Or, les soldats américains débarquent de plus en plus nombreux. Il y aura 2 millions de soldats américains en France au 11 novembre. Ce qui veut dire que, alors que l'Allemagne n'a plus les moyens de combler, les déficits d'effectifs, eh bien, les Alliés, qui étaient eux aussi exsangues, les Alliés ont une sorte de réservoir inépuisable, qui est celui des États-Unis. Alors, on dit quelquefois que les États-Unis n'ont pas tellement combattu, ce qui est faux d'ailleurs. Les Américains n'ont pas tellement combattu. Mais surtout, c'était l'effet psychologique. Le commandement alliés, les commandements alliés, savaient que maintenant, ils disposaient d'effectifs extrêmement importants. Et la dernière grande offensive allemande avait lieu le 15 juillet dans la région de Reims. Ça devait être l'offensive décisive, définitive. On en était même tellement persuadé du côté du commandement allemand que l'empereur, le Kaiser, Guillaume II, avait été qu'une fois plus grand rôle à ce moment-là. Toute l'Allemagne était dirigée par le couple Hindenburg-Ludendorff. Mais malgré tout, pour assister à la grande victoire qu'on allait remporter, Guillaume II avait été convoqué, si je puis dire. On lui avait construit un grand observatoire d'où il pourrait voir la victoire. En réalité, le 15 juillet fut un échec. L'offensive allemande échoua. Et au contraire, le 18 juillet, sortait de la forêt de Villers-Cotterêts, sortait la contre-offensive française, franco-américaine, car là, des divisions américaines y participaient. Et cette contre-offensive du 18 juillet 1918, eh bien, est la manifestation d'un retournement de la situation. À partir du mois d'août, l'initiative est du côté des Alliés. Et au mois de septembre, le maréchal Foch peut déclencher une offensive générale qui lentement repousse l'armée allemande. Je dis lentement. Cela peut paraître un peu surprenant. Maintenant, les franco-anglais-américains ont une large supériorité numérique. Ils pourraient peut-être vaincre rapidement. Non. Non, pour deux raisons. La première, c'est que l'armée allemande se défend pied à pied. Une armée allemande très affaiblie par la désertion. C'est quelque chose que l'on connaît mal, enfin que l'on connaissait mal, maintenant on le connaît bien, mais on ne le connaît pas depuis longtemps. À partir du mois de septembre 1918, eh bien, il y a une désertion considérable. Alors, les soldats, qu'est-ce que deviennent ces soldats allemands qui désertent? Eh bien, ils restent entre l'Allemagne et le front. Ils ne rejoignent pas leurs unités, c'est-à-dire, par exemple, qu'il y en a énormément en Alsace. Hein. Ce sont eux qui vont hisser le drapeau rouge sur la cathédrale de Strasbourg quelques semaines plus tard. Donc, l'armée allemande est affaiblie, mais malgré tout, elle tient. Et quant aux franco-anglais, je ne parle pas des Américains, le cas est différent, eh bien, ce sont des soldats qui, j'allais dire depuis 4 ans, il n'y en a plus beaucoup depuis 4 ans, mais enfin qui depuis longtemps sont dans les tranchées, et qui ont perdu le sens de la manœuvre. Et dans ces conditions, l'offensive générale franco-anglaise est lente. Il repousse lentement l'adversaire devant soi, un adversaire qui d'ailleurs se bat. Les Américains sont plus dynamiques, mais ils ont un défaut, ils manquent d'expérience. Les pertes américaines vont être très très lourdes compte tenu du petit nombre de semaines où ils vont combattre. Mais leurs états-majors manquent d'expérience, en particulier dans le domaine de la logistique, et derrière les attaques américaines, en général, se créent des embouteillages épouvantables dont il est très difficile de sortir. Le recul allemand s'opère donc, si je puis dire, en bon ordre. Leur front n'a jamais été rompu. Alors, pourquoi, brusquement, le 28 septembre, celui qui commandait véritablement l'armée allemande, ce n'était pas Hindenburg, c'était Ludendorff. Et Ludendorff, le 28 septembre, estime que sans se perdre une minute, il faut demander la paix. il se rend compte très vite tout de même que on ne pouvait pas demander la paix comme ça, qu'il fallait d'abord passer par une demande d'armistice. Depuis, on s'est toujours demandé pourquoi Ludendorff avait, craqué. Et on a souvent pensé qu'il avait craqué, que cet homme d'acier, ses nerfs, avait rompu. Il ne semble pas que ça soit vrai. Simplement, Ludendorff a craint que le front, qui n'avait pas été rompu jusqu'alors, le soit. Les Anglais en particulier ont attaqué du côté de Saint-Quentin, ont remporté de grands succès. Ils s'emparent de Saint-Quentin dans la nuit du 1er au 2 octobre, très peu de temps après la position prise par Ludendorff. Et Ludendorff craint sérieusement que le front allemand soit rompu. Disons-le immédiatement, Ludendorff s'est trompé, car l'armée allemande a continué à reculer pas à pas, mais son front n'a pas été rompu. Certes, du côté allié, on prépare le général Pétain, qui commandait l'armée française, donc le maréchal Foch commandant l'ensemble des armées alliées. Le général Pétain préparait une grande offensive en Lorraine, dont il espérait qu'elle rompe le front allemand et qu'elle prenne le gros de l'armée allemande à revers et lui inflige un immense Sedan. Quelle gloire! À part Pétain et ses pensures, personne n'y croyait. Le maréchal Foch ne croyait aucunement à la possibilité de ce grandiose objectif, toute l'armée allemande prise dans un vaste filet. Malgré tout, alors, cette offensive aurait dû débuter, elle a été reportée un certain nombre de fois, elle aurait dû débuter le 14 novembre. Alors, à titre personnel, je le dis toujours, je me réjouis qu'elle n'ait pas débouché, parce que le 14 novembre, c'était parce que mon père appartenait à l'armée de Lorraine. Alors, je ne serais probablement pas là pour si cette offensive avait eu lieu. Mais enfin, elle n'a pas eu lieu, quoi qu'il en soit. Pour Ludendorff et les généraux allemands, quand ils demandent l'armistice, ils craignent que le front soit rompu. Mais surtout, ils ne veulent pas capituler. Ils ne veulent pas que l'armée allemande soit en cause. Et ils pensent qu'en demandant la paix ou l'armistice, ils vont obtenir des conditions acceptables. Ils étaient tout de même relativement pressés, parce que tous les alliés de l'Allemagne sont en train de lâcher pied les uns après les autres. Le 15 septembre, c'est enfin l'armée d'Orient qui était passée à l'offensive, et 10 jours plus tard, les troupes qui lui étaient opposées, qui étaient surtout des troupes bulgares, le 25 septembre, la Bulgarie demande l'armistice. Et non seulement cela met la Bulgarie hors de combat, mais cela met la Turquie, autre allié de l'Allemagne, dans une position extrêmement difficile. D'ailleurs, au même moment, les Britanniques remportent de très grands succès à ce qu'on appelle maintenant le Moyen-Orient, en particulier en Syrie. Et la situation de la Turquie devient intenable, et à la fin du mois d'octobre, c'est la Turquie qui, elle aussi, demande l'armistice, après que le gouvernement turc, le gouvernement jeune turc, les nationalistes turcs, qui avaient pris le pouvoir en 1913, se sont enfuis, en particulier sur des navires et des sous-marins allemands. L'Autriche-Hongrie, dernier allié, l'Autriche-Hongrie est aux abois, et dès le 14 septembre, elle avait déjà demandé à l'Italie, contre qui elle était essentiellement, d'engager des conversations de paix. Tout cela fait que Ludendorff avait tout de même de bonnes raisons de souhaiter que l'Allemagne cesse la guerre. Mais la grande raison malgré tout, de Ludendorff, c'est de faire, enfin, le grand désir de Ludendorff, pour la grande raison, c'est de faire que soit dégagée la responsabilité du pouvoir militaire. Il faut faire demander l'armistice, non pas par le pouvoir militaire, mais par le pouvoir civil. Seulement, il n'y a plus guère de pouvoir civil en Allemagne. Il faut donc reconstituer en quelque sorte un pouvoir civil. Et c'est ainsi que on allait nommer chancelier un prince de la famille, impériale d'ailleurs, le prince Max de Bade. Max de Bade, ça arrive même dans les familles princières, est un libéral. Donc c'est quelqu'un qui est acceptable pour les alliés, pour pouvoir discuter avec eux. Et d'ailleurs, assez curieusement, Max de Bade, lui, n'est pas convaincu de la nécessité de l'armistice. Et il y a une séance célèbre où il y a le nouveau chancelier, Max de Bade, il y a Guillaume II, et Max de Bade dit « Pourquoi l'armistice? On peut tenir encore, etc. » Et Guillaume II lui dit « Ça va, on a décidé qu'il fallait demander armistice. » Je crois qu'il a employé des mots très, très vifs à l'égard de son, roi, de son cousin, hein, pour lui dire qu'il n'avait pas à gêner la politique du gouvernement. Et c'est ainsi que Max de Bade est amené à demander l'armistice. Résultat, oui, c'est le pouvoir civil qui demande l'armistice et pas le pouvoir militaire. À qui va-t-on demander l'armistice? Ben, normalement, on devrait le demander aux gens avec qui on se bat, c'est-à-dire essentiellement aux Français et aux Anglais. Mais le gouvernement allemand pense habile de s'adresser au président Wilson, au président des États-Unis, parce qu'il était connu comme étant partisan d'une paix sans victoire. Et on a cette situation extraordinaire, quand on y pense, que les Allemands demandent l'armistice au gouvernement américain, avec qui ils sont en guerre, certes, mais sans le demander, en même temps, au gouvernement français ou au gouvernement britannique. Alors, tout cela a demandé du temps, et ce n'est que le 4 octobre que la demande d'armistice est enfin adressée à Wilson. Eh bien, les Allemands ont fait une faute de calcul. Il n'est pas sûr que les conditions de l'armistice auraient été meilleures si la demande d'armistice avait été adressée à la France et à l'Angleterre, mais il se trouve qu'il tombe sur un partenaire qui n'est pas facile. Vous me direz, n'importe comment, c'est pas le président Wilson qui va faire l'armistice. Le président Wilson va s'adresser à ses associés. Pas du tout. Wilson estime que les Allemands lui ont écrit et que c'est à lui, Wilson, de répondre. Alors, aussitôt qu'on a su cela, le Premier ministre britannique, le président du Conseil italien, se sont réunis à Paris autour de Clémenceau. Et ils attendaient que Wilson veuille bien entrer en contact avec eux pour répondre à l'armistice. Eh bien, ils ont pu attendre. Hein, Wilson ne s'est pas adressé à eux. Alors, pour passer le temps, ils ont discuté de savoir ce qu'ils demanderaient comme condition d'armistice. Mais simplement, on ne leur avait rien demandé. Seulement, Wilson s'est montré, un compétiteur. Et tout le mois d'octobre est consacré à une série de messages. Après la demande d'armistice, message américain, réponse des Allemands, réponse des Américains, etc., etc. Et, en fait, l'idée de Wilson est très simple. Wilson, au fond, veut conduire les Allemands à une véritable capitulation. Et une capitulation qui repose sur un État démocratique. Ludendorff se rend compte qu'il a fait une erreur. Contrairement à ce qu'il croyait, Wilson ne va pas être un correspondant facile, c'est au contraire un correspondant difficile. Et Ludendorff est partisan de rompre la négociation. Mais c'est trop tard. Et en fait, même si la catastrophe militaire qu'il redoutait n'a pas eu lieu, même s'il espère, grâce à cela, pouvoir attendre le printemps prochain. Or, attendre le printemps prochain, ça veut dire l'arrivée d'une nouvelle classe dans l'armée allemande. Et que grâce à cette nouvelle classe, eh bien, on allait pouvoir tenir encore. Mais Ludendorff, qui, de ce point de vue, probablement le meilleur tacticien de l'époque, mais ce n'était pas, disons-le, un très grand psychologue. À partir du moment où l'idée de l'armistice était lancée, eh bien, il y a une sorte de véritable écroulement de la volonté de combattre. Et l'opinion allemande qui avait tenu pendant toute la guerre s'écroule en quelque sorte en ce mois d'octobre. Elle n'en veut plus de la guerre. Donc l'idée qu'on allait pouvoir tenir jusqu'au printemps prochain était une idée très utopique. Et le 26 octobre, c'est Ludendorff qui est contraint à la démission. Progressivement, le président des États-Unis a obtenu ce qu'il souhaitait, c'est-à-dire que l'Allemagne accepte au fait de capituler. Et quand ces conditions sont réunies, le 6 novembre, le gouvernement allemand est invité par le président des États-Unis à envoyer des plénipotentiaires au commandement allié, c'est-à-dire au maréchal Foch, pour que celui-ci puisse indiquer aux plénipotentiaires allemands quelles seront les conditions de l'armistice. C'est les plénipotentiaires allemands sont conduits par un député du centre catholique, Matthias Erzberger, ou Esberger, si vous voulez. Il se présente devant les lignes alliées. Quand la délégation allemande arrive devant les lignes alliées, l'Allemagne est en pleine révolution. Et le 9 novembre, l'empereur, qui s'était réfugié au grand quartier général, il croyait qu'il allait pouvoir prendre la tête de l'armée pour ressaisir son pouvoir. Les généraux lui font comprendre que non, vraiment pas, c'est plus possible. Et le 9 novembre, Guillaume II abdique, et en même temps d'ailleurs, plusieurs révolutions ont lieu en même temps en Allemagne, une révolution modérée, une révolution plus extrémiste. Erzberger et les délégués allemands vont à Rotonde. Là, on leur remet les conditions. Ils ont le droit de revenir en Allemagne. Tout cela n'était pas si facile qu'on pourrait le penser. Traverser le front des deux côtés, ce n'était pas du tout commode. Les terrains étaient complètement bouleversés. Hein. Enfin, Erzberger parvient à retourner en Allemagne. Le nouveau gouvernement allemand, un gouvernement à majorité socialiste, n'a pas le temps d'étudier les conditions. Quelques minutes seulement. Hein, l'Allemagne est en plein chaos et c'est pas, ma foi, on dit à Erzberger de se débrouiller, d'essayer d'obtenir le maximum, mais enfin, rien de plus. Il a les pleins pouvoirs pour signer, il refranchit les lignes françaises, Et le 11 novembre, dans la nuit, comme nous l'avons vu, eh bien, il signait les conditions de l'armistice. Reste pour nous un problème. Enfin, pas un petit problème. Quelle fut l'attitude en France pendant ce long mois ? Demande d'armistice début octobre, armistice le 11 novembre. Quelle a été l'attitude de l'opinion des Français ? N'oublions pas que la guerre continue pendant ce temps-là. Les opérations militaires, très dures, se poursuivent. La première réaction en France est incontestablement négative. C'est un piège, la demande d'armistice. Un piège tendu par l'Allemagne pour se donner le temps de refaire ses forces. Si on veut comprendre l'attitude des Français, il ne faut jamais négliger l'intensité de l'anti-germanisme en France à cette époque. D'ailleurs, on ne comprend rien à tout ce qui va se passer par la suite si on n'a pas conscience de la profondeur, de la violence, de la virulence de cet anti-germanisme. Donc si les Allemands demandent l'armistice, c'est un piège. Ils veulent simplement gagner du temps pour refaire leurs forces et pouvoir continuer la guerre. Mais au fur et à mesure que les négociations se prolongent, deux courants se manifeste. D'une part, un courant qui baisse progressivement. Ce premier courant, c'est le courant qui correspond à ce que l'on vient de dire, le courant qui croit que c'est un piège, on n'a pas à accepter cette demande d'armistice, il faut au contraire continuer la guerre, et pour certains, il faut mener la guerre en Allemagne. Et puis, mais ce courant la baisse. Et il y a un courant qui monte, qui ne cesse de monter. Comment continuer la guerre et continuer à faire tuer des soldats alors que l'adversaire a proposé l'armistice ? Donc, d'un côté, il y a ceux qui veulent continuer la guerre, ceux qui pensent que, bon, il faut évidemment obtenir de bonnes conditions. Mais si ces conditions sont suffisantes, il faut accepter l'armistice. Ce que je vous dis là est un peu simple. Car en fait, chez les mêmes personnes, il y a les deux courants. C'est-à-dire que, suivant le moment de la journée, ils sont partisans de continuer la guerre. Et puis tout de même, c'est-à-dire si on peut terminer. On en a assez de la guerre aussi, hein, bien sûr, et depuis longtemps. Alors, c'est pas seulement deux courants, c'est même beaucoup de gens qui sont partagés, qui se demandent finalement ce qu'ils vont faire. On retrouve ces deux attitudes au niveau des responsables. Et cela a conduit à un très violent incident entre le président de la République, Raymond Poincaré, et le président du Conseil, Georges Clemenceau. Dès le 7 octobre, Raymond Poincaré avait voulu mettre en garde le président du Conseil sur les dangers d'accepter cet armistice. Le président de la République a écrit une lettre au président du Conseil, communiquait pas mal par lettre. Vous savez que Clemenceau était pas si sourd qu'on dit. Mais enfin, il jouait facilement les sourds quand il n'avait pas envie d'entendre, surtout. Alors, il était plus commode. Et puis, en fait, vous savez que, sachons-le, Poincaré et Clemenceau se détestaient. Et Poincaré n'avait fait appel à Clemenceau que parce qu'il n'avait pas pu faire autrement. Ce qui n'empêchait pas qu'ils se détestaient. Alors, leurs entrevues n'étaient pas d'une chaleur, une chaleur particulière. Enfin, Poincaré écrit à Clemenceau pour le mettre en garde contre le danger de couper les jarrets à nos troupes en cas d'arrêt prématuré des hostilités. Clémenceau fut littéralement furieux de la lettre de Poincaré. Et le 8 octobre, nous sommes encore loin, vous voyez l'armistice, le 8 octobre, Clémenceau répond au président de la République, « Monsieur le Président, je n'admets pas qu'après 3 ans de gouvernement personnel, la formule peut vous sembler bizarre parce que on sait bien que sous la Troisième République, le président de la République ne jouait pas un très grand rôle. En réalité, Poincaré, qui était un homme d'autorité, avait joué un rôle important. Et là, ce que dit Clémenceau, c'est que lui, Poincaré, avait en fait gouverné la France pendant 3 ans. Je n'admets pas qu'après 3 ans de gouvernement personnel, qui a si bien réussi, vous vous permettiez de me conseiller de ne pas couper les jarrets à nos soldats. Si vous ne retirez pas votre lettre, écrite pour l'histoire que vous voulez vous faire, j'ai l'honneur de vous envoyer ma démission. » Finalement, Clémenceau retira sa démission et demanda au président de la République de ne plus lui écrire ce qu'il dérangeait, ce qu'il gênait. D'ailleurs, c'est une chose que Raymond Poincaré n'allait pas digérer, évidemment, c'est que pratiquement, enfin, depuis que Clémenceau était au pouvoir, déjà, on ne lui demandait plus son avis. Mais pendant tant que Clémenceau fut au pouvoir, et en particulier pendant les négociations de paix, eh bien, Poincaré a été mis sur le côté. Que voulait Poincaré ? Voulait-il vraiment que la lutte soit portée en Allemagne ? Ce n'était pas l'avis d'un des grands maîtres des études sur la Grande Guerre, qui maintenant est décédé depuis évidemment pas mal d'années, Pierre Renouvin. Pierre Renouvin pensait que ce n'était pas si simple. Simplement que Poincaré avait voulu dire tout simplement que si on arrêtait la guerre trop tôt, eh bien les soldats ne pourraient pas repartir. En quoi il avait raison. Après une guerre, on ne pouvait pas penser à arrêter la guerre et puis la reprendre quelques semaines plus tard. Quoi qu'il en soit, d'un côté, il y a ceux qui veulent continuer, Poincaré, le commandant américain, le général Pershing, qui commande le corps expéditionnaire britannique, est partisan continuer. Pétain le prudent, Pétain le pessimiste, mais il a sous la main sa grande offensive du 14 novembre. Il voudrait bien la faire, son offensive, tout de même. Et enfin, d'ailleurs, à titre personnel, montrer qu'il n'est pas aussi, pessimiste qu'on le dit, qu'il est capable d'être un général offensif. En fait, c'était un très grand défensif. Le général offensif, il n'a pas eu tellement l'occasion le montrer. Alors, Pétain... Chose plus curieuse, le chef de cabinet militaire de Clémenceau, le général Mordac, dont j'ai déjà parlé, lui aussi est partisan continuer la guerre. De l'autre, il y a Clémenceau et quelqu'un qui peut paraître surprenant, c'est le maréchal Foch. Le maréchal Foch considère qu'on ne doit pas faire tuer un homme de plus quand le résultat est acquis. Donc, il est partisan. Évidemment, d'avoir des conditions d'armistice bonnes, mais que si elles sont bonnes, eh bien, on ne doit pas continuer la guerre. Progressivement, l'opinion française a été acquise à l'idée de l'armistice. Et le 7 novembre, une joie délirante éclate sur les boulevards parisiens car se répand l'idée que l'armistice est conclu. C'est faux. L'armistice était encore, sinon loin d'être conclu, mais n'était pas conclu. Et puis quelques jours se passent. Le dimanche 10 novembre, il fait beau en plus, ce qui n'est pas évident au mois de novembre. Une foule nombreuse est dans les rues. Et cette foule espère entendre le canon qui va annoncer la signature de l'armistice le 10 novembre. Aussi, quand le lendemain 11, l'annonce vraie de l'armistice a lieu, Ce fut un véritable délire dans les rues de Paris. Ce fut quelquefois des manifestations presque de manifestations de joie, presque démentes. À noter que les Anglais qui paraissent, enfin qui sont connus comme flegmatiques, les manifestations de joie à Londres sont équivalentes de celles de Paris. Manifestations de joie également dans les villes, pas seulement à Paris, et même dans les plus petites bourgades. Joie totale, il ne faut pas trop se laisser prendre aux apparences. Quand on observe de près les photographies qui ont été prises ces jours-là, on y voit beaucoup de visages graves. On remarque les brassards de deuil que beaucoup de militaires portaient. Et on ne doit pas oublier qu'on est en pleine épidémie de grippe espagnole. De grippe dite espagnole. Tout le monde sait bien que cette grippe n'était pas espagnole. Et dans un film célèbre, on entend à la fois le canon de la victoire et les cloches des églises à l'occasion d'enterrements. Surtout, les soldats du front n'ont pas été sur le même plan. Les soldats du front ont manifesté leur contentement d'en avoir fini. Mais ils ont montré un enthousiasme plus mesuré que les civils, car les dernières semaines de la guerre ont été loin d'être une promenade. Pour la seule armée française, d'août à novembre, on a compté 95 000 morts, disparus et prisonniers, mais il y a peu de prisonniers à ce moment-là, de prisonniers français, bien entendu. Et les disparus étaient en général des morts. Donc, il est évident que pour les soldats qui avaient encore perdu tant de ceux avec qui ils combattaient, eh bien, ils sont contents d'en avoir fini. Mais il est difficile qu'ils soient enthousiastes. Dans ce pays où l'opinion est par nature divisée, toujours divisée, elle a toujours été divisée, le 11 novembre 1918 peut être considéré comme un sommet, le sommet de la communion nationale, un sommet comme il n'y en avait jamais eu, comme il n'y en aura plus, et qui devait durer d'ailleurs peu de temps. Mais comme un des grands journaux de cette époque, Le Temps, l'écrit, un frisson sacré avait secoué la Chambre des députés à la fin du discours de Clémenceau. Dernière question qui s'impose. L'armistice a-t-il eu, comme certains le croyaient, a-t-il eu lieu trop tôt? C'est l'idée que si la guerre avait été portée en Allemagne, on aurait évité les drames de l'avenir, dans la mesure où l'Allemagne aurait eu conscience de sa défaite. C'est une opinion défendable, une opinion que je ne partage pas d'ailleurs. Mais c'est une opinion défendable. Mais en vérité, un des arguments les plus efficaces du nationalisme allemand, un des arguments qui a été le plus porteur pour le nazisme, c'est que si l'Allemagne avait été vaincue, elle avait été parce qu'elle avait été frappée d'un coup de poignard dans le dos, du coup de poignard de la Révolution. Alors, finalement, qu'on ait conclu l'armistice au moment où on l'a conclu, ou qu'on l'ait conclu un peu plus tard en Allemagne, est-ce que les résultats auraient été différents? J'en doute. Eh bien, il y a 90 ans maintenant, la plus grande guerre de l'histoire, jusque-là, car depuis on a fait mieux, la plus grande guerre de l'histoire s'arrêtait, mais il fallait maintenant faire la paix, et ça, c'était un autre problème. Merci. Applaudissements.